Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Aujourd'hui, nous allons aborder le phénomène de l'alimentation bio. Plus qu'un effet de mode, le manger bio est devenu un réel sujet de préoccupation pour les consommateurs. Et d'ici à 2020, l'objectif est que 20% de la surface agricole utile soit consacrée à l'agriculture biologique. Un objectif que s'est fixé le Grenelle de l'environnement en 2008. Seulement, savons-nous réellement ce qu'est l'agriculture biologique ? Savons-nous ce que représente le label AB et quelles sont les méthodes de culture qui y sont inhérentes? Autant de questions et bien d'autres que l'ouvrage « Le tout bio est-il possible ?» publié aux éditions Quae aborde avec précision. C'est en compagnie de Bernard Lebuanec, qui a été le coordinateur de cet ouvrage, que je me trouve aujourd'hui. Monsieur Lebuanec, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors vous êtes membre fondateur de l'Académie des technologies et membre de l'Académie d'agriculture de France. Vos travaux vous ont amené à travailler en particulier sur l'agronomie en zone intertropicale et sur les semences. Dans cet ouvrage, dont vous êtes le coordinateur, vous proposez 90 réponses à 90 questions sur l'agriculture biologique. Et cet ouvrage a été rédigé donc par un groupe de travail de l'Académie d'agriculture de France. Pouvez-vous nous éclaircir au préalable, monsieur Lebuanec, sur les principes de base de l'agriculture biologique?
L'agriculture biologique est une agriculture qui a débuté au début du XXe siècle sur un certain nombre de bases qu'on peut appeler ésotériques, mais qui a ensuite été codifiée dans un certain nombre de règlements, tant européens que français. Le grand principe de base de l'agriculture biologique est en fait de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse pour la production agricole. Et c'est donc cela qui est réglementé dans toutes les lois françaises, européennes et internationales.
Et alors, cette volonté de manger bio aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'elle est en expansion ?
Oui, il y a eu une certaine extension au cours des dernières années, avec tout de même des hauts et des bas. Et il y a eu par moments, en particulier sur les produits laitiers, en Allemagne, aux Pays-Bas, des surproductions de produits bio qui ne trouvaient pas preneur. Elle est toujours en extension aujourd'hui en France, mais ça reste tout de même un produit de niche puisque l'agriculture bio représente aujourd'hui de l'ordre de 4 à 5% des surfaces cultivées et du même ordre de grandeur, peut-être même moins, pour la consommation alimentaire.
Et vous pensez que cet objectif que s'est fixé le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire que d'ici 2020, 20% de la surface agricole utile soit consacrée à l'agriculture biologique, est réalisable ?
En fait, nous avons créé notre groupe de travail justement à la suite du Grenelle, puisqu'il y avait cette volonté affichée de promouvoir l'agriculture biologique avec 6% des surfaces françaises en 2012 et 20% en l'an 2020. Et donc, nous avons voulu voir exactement ce que c'était et à quoi cela pouvait entraîner. Tout d'abord, on peut dire que l'objectif de 2012 n'est pas atteint. Il était prévu 6% en 2012 et en fait, aujourd'hui, on est de l'ordre de 4%. Il y a une augmentation sensible, mais on est quand même loin de l'objectif. Il ne semble pas aux membres du groupe que l'objectif des 20% soit réalisable en 2020. Et nous nous posons d'ailleurs même la question de savoir si c'est souhaitable, car comme vous avez pu le voir dans le livre, l'agriculture biologique présente certains avantages, mais également certains inconvénients.
Une des qualités de cet ouvrage, c'est de montrer les atouts de l'agriculture biologique, mais aussi les problématiques qu'elle peut soulever. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de ces problématiques et de ces atouts, il faudrait tout d'abord, monsieur Lebuanec, expliquer comment les agriculteurs peuvent faire certifier leur culture avec le label agriculture biologique. Il existe donc plusieurs organismes qui sont là pour délivrer des certificats.
Alors il existe 5 organisme de certification qui visite au moins une fois par an les entreprises agricoles qui veulent obtenir le label bio et qui vérifie si les agriculteurs suivent le cahier des charges tel qu'il est défini par les règlements européens et français. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter et qui est intéressant, c'est que l'agriculture bio a une obligation de moyens, c'est-à-dire que les agriculteurs doivent suivre un certain nombre de règles de production, mais il n'y a aucune obligation de résultat, c'est-à-dire que les produits bio n'ont pas d'analyse différente de celle des produits classiques sur le marché. Il faut enfin dire quelque chose qui n'est pas très classique, ce sont les agriculteurs qui payent eux-mêmes les organismes qui viennent les certifier.
Et ces agriculteurs peuvent quand même toucher des subventions ?
Il arrive qu'ils touchent des subventions, mais en fait, les subventions qui sont obtenues par l'agriculture biologique actuellement sont pas très différentes de celles qui sont obtenues en agriculture dite conventionnelle.
Alors, accroître les surfaces d'agriculture biologique peut-il augmenter les risques sanitaires ? C'est une des questions que vous posez dans votre ouvrage, Monsieur Le Bouanec. Est-ce que cette crainte que l'agriculture biologique soit un réservoir de parasites est fondée ?
C'est difficile de répondre de façon très précise à cette question, car il faudrait bien sûr faire des analyses très complètes et qui coûteraient très cher. D'une manière générale, on peut dire que les produits bio ne présentent pas plus de risques que les produits de l'agriculture conventionnelle. Cependant, il y a quelques risques qui ont été soulignés, comme par exemple, pour certaines espèces, le développement de mycotoxines, car du fait de l'absence de traitement, il y a plus d'attaques parasitaires, et également dans la production animale, des présences de bactéries qui peuvent être toxiques. Il est quand même intéressant de noter que les quelques rares accidents alimentaires dont on a parlé en Europe ces deux ou trois dernières années ont tous eu lieu dans le cadre de produits biologiques, que ce soit les germes dits de soja en Allemagne et dans le sud-ouest de la France, ou que ce soit très récemment des accidents la semaine dernière qui ont été liés à la présence de datura dans du sarrasin biologique. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter de façon très forte, mais il faut être vigilant.
Et alors, l'agriculture biologique utilise aussi des pesticides. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu leur façon de fonctionner ?
Ah bah bien sûr, l'agriculture biologique utilise des produits de protection des cultures exactement de la même façon qu'il est indispensable d'utiliser des produits de protection en agriculture dite conventionnelle. Car sans protection, eh bien, dans beaucoup de cas, les récoltes seraient extrêmement compromises. Alors, la différence, c'est que les produits utilisés en agriculture biologique sont des produits qui sont listés dans les règlements, mais qui ne doivent pas être des produits de synthèse. Ceci ne veut pas dire que ces produits ne soient pas dangereux, ni pour l'homme, ni pour l'environnement, et en particulier des produits qui ont été très utilisés ces dernières années en agriculture biologique, comme par exemple la rotenone ou l'huile de neem, viennent d'être interdits parce que c'était des perturbateurs endocriniens. Le cuivre lui-même est un produit qui a les mêmes niveaux, je dirais, de limite maximum de résidus que les produits de synthèse dans les aliments. Et de plus, le cuivre, je dirais, a un effet stérilisant sur beaucoup de sols. Aujourd'hui, les vignes qui ont été cultivées et traitées au cuivre, quand on les arrache, plus rien ne pousse.
Et alors, est-ce qu'au contraire, on va essayer d'être positif aussi, monsieur Le Bouanec, est-ce qu'au contraire, la culture biologique peut jouer un rôle protecteur pour notre environnement ? Il y a aussi tout un chapitre dans cet ouvrage que vous développez.
Oui, bien sûr. L'agriculture biologique, au niveau de l'environnement, présente plusieurs avantages, dont certains sont évidents. En particulier, un des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, c'est la pollution des nappes par des résidus de pesticides de synthèse. Dans la mesure où on n'en utilise pas en agriculture biologique, de ce côté-là, c'est un effet positif évident. Sur les questions de gaz à effet de serre et d'énergie dont on parle beaucoup, là, les résultats sont plus mitigés. D'une manière générale, en agriculture biologique, les résultats sont plutôt positifs et il y a une moindre émission de gaz à effet de serre qu'en agriculture dite traditionnelle. Cette différence est très forte quand on raisonne à l'hectare. Elle devient beaucoup moins forte quand on raisonne à la quantité produite, puisque les quantités produites en agriculture biologique sont beaucoup plus faibles. En élevage, par contre, les résultats sont beaucoup, beaucoup plus mitigés. Et en élevage de bovins, il n'y a pas de très grosse différence. Et des études récentes montrent qu'en élevage porcin, l'élevage intensif émet moins de gaz à effet de serre que l'élevage dit biologique. Donc en fait, des avantages oui, des avantages vraisemblables sur la biodiversité, mais sur les gaz à effet de serre, c'est, disons, très mitigé et ça dépend de l'unité de mesure que l'on prend.
Est-ce que finalement, un juste équilibre entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique ne serait pas la solution ? Est-ce que c'est aussi un objectif qui pourrait être atteint ?
Je pense que plus qu'un équilibre entre une agriculture conventionnelle et une agriculture biologique, on pourrait dire que les recherches nécessaires actuellement pour promouvoir l'agriculture biologique sont des recherches qui vont dans le bon sens pour, en particulier, limiter l'utilisation des fertilisants, des herbicides et des produits de protection. Et que les recherches faites dans ce domaine pourraient être utiles à l'agriculture conventionnelle. Et donc, au lieu de vouloir, je dirais, non pas opposer ou même mettre côte à côte l'agriculture biologique et l'agriculture dite traditionnelle, l'idéal serait d'avoir une agriculture qui permette, grâce à tous les travaux que l'on fait aujourd'hui, de mieux respecter l'environnement. Mais je reste persuadé que l'agriculture biologique seule, avec une interdiction systématique de produits de synthèse, a, pour le moment, un effet trop fort sur la production pour que ce soit une solution d'avenir. Je vais vous donner un chiffre. En France, en céréales, les rendements moyens de céréales en agriculture conventionnelle sont de l'ordre de 70 à 80 quintaux à l'hectare. En agriculture biologique, elles sont de 30 à 40 quintaux, c'est-à-dire la moitié.
Dans une situation mondiale qui aura de plus en plus faim, l'agriculture biologique ne peut pas répondre à ces problèmes-là.
Non, en fait, c'est la question qui se pose dans le titre de notre ouvrage. Le tout bio est-il possible ? Et nous nous sommes posé la question. Les besoins, si on se réfère aux statistiques de la FAO, sont très importants et il faudrait augmenter pour nourrir une population de 9 milliards d'humains en 2050, augmenter la production de 70%. Si, dans les conditions actuelles de nos connaissances, on passait à l'agriculture biologique, dans tous les pays développés où on a une agriculture conventionnelle, les rendements risqueraient de diminuer de 40 à 50%. Ça veut dire que je crois que la réponse est claire, l'agriculture biologique ne permettrait pas de nourrir le monde correctement, d'autant plus qu'en plus de l'alimentation, on a aujourd'hui des besoins de production agricole à la fois pour l'énergie et pour la transformation en produits industriels. Le facteur limitant qui existe aujourd'hui, c'est les surfaces disponibles. Il y a des chiffres différents qui circulent. Ils sont précisés dans le livre. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, on estime globalement, si on est en accord avec la FAO, qu'il y a 2 millions d'hectares de terres encore disponibles, ce qui est très largement insuffisant pour augmenter la production de 70% sans augmenter la productivité.
Est-ce que finalement cette étiquette, comme quoi l'agriculture bio serait réservée à une certaine catégorie de la population, ben finalement cette étiquette, elle existe vraiment ? C'est une étiquette que vous acceptez ?
C'est en grande partie la réalité. Effectivement, les produits bio coûtent sensiblement plus cher que les produits conventionnels et toutes les enquêtes récentes montrent que le prix des produits bio est de l'ordre de 30 à 40, voire 70% supérieur aux produits conventionnels, en particulier dans les produits laitiers. Donc, Tout le monde aujourd'hui ne peut pas s'offrir des produits bio et c'est vrai que c'est un peu un marché de niche pour une catégorie de population plus aisée que la moyenne.
Justement, évoquons maintenant les consommateurs, Bernard Le Buanec, puisqu'on peut lire dans votre livre que 91% des gens interrogés consomment bio pour préserver leur santé. Alors, quels sont les réels impacts sur nos aliments et quels sont vraiment les apports nutritionnels qu'apporte l'agriculture biologique ?
Effectivement, 91% de la population pense qu'il faut manger bio pour améliorer sa santé. Les conclusions de notre livre confirment les conclusions de l'AFSA qui disait que, dans le cadre des connaissances actuelles, rien ne montre que les produits bio sont meilleurs pour la santé que les produits de l'agriculture conventionnelle. Et depuis le rapport de l'AFSA, il y a eu une centaine de publications qui ont été faites dans le monde qui confirment les mêmes résultats. Donc en fait, il semble au groupe de travail qui était très varié, avec des membres de 7 sections de l'Académie d'agriculture, que l'agriculture bio aujourd'hui n'apporte pas d'avantages significatifs sur la santé du consommateur.
Et pourtant, vous expliquez aussi dans cet ouvrage, Bernard Le Buanec, qu'ils sont quand même plus nourrissants, à l'image des fruits et des légumes qui peuvent être riches en antioxydants.
Alors, on dit qu'il y a en général dans les produits bio plus d'antioxydants parce que les antioxydants sont en fait des produits développés par les plantes en réaction de défense aux agresseurs, que ce soit des agresseurs, des champignons ou des insectes. La question qui se pose ensuite, c'est que l'on n'a jamais pu mettre en évidence, dans le cadre d'études extrêmement précises, l'effet de ce contenu plus élevé en antioxydants sur la santé des personnes qui les mangent. Donc en fait, il y a plus d'antioxydants, le lien avec un effet sur la santé n'a pas encore été fait.
Donc l'agriculture biologique n'est pas forcément meilleure pour notre santé, mais il est quand même préférable de consommer des produits issus de l'agriculture biologique.
Ça dépend sur quel plan on se place. Disons que il n'est pas nuisible de manger des produits provenant de l'agriculture biologique. Est-il préférable ? Je n'en sais rien. Et si effectivement on se place dans le développement agricole général, je pense à ce moment-là qu'il est plutôt préférable de manger des produits de l'agriculture conventionnelle dont on a montré qu'ils n'étaient pas différents sur le plan de la santé que les produits de l'agriculture biologique, mais qui permettent une productivité à l'hectare bien supérieure.
Et pourtant, si on consomme bio, monsieur Le Buanec, est-ce qu'il y a une régularité, une échelle à respecter pour que finalement cette consommation ait un impact sur notre santé ou sur nos besoins nutritionnels ? C'est une question que vous posez dans cet ouvrage. Par exemple, manger bio une fois par semaine, est-ce que cela a des conséquences sur notre organisme ?
Nous avions deux spécialistes de nutrition dans notre groupe de travail, Gérard Pascal et Léon Guéguen, qui ont passé quasiment toute leur vie sur ces questions d'alimentation. Et les conclusions de notre groupe, c'est qu'aujourd'hui, le fait de manger bio une fois par semaine n'a aucun effet sur la santé des consommateurs.
Il y a une notion importante que vous abordez aussi, ce sont les avantages organoleptiques que fournissent les produits issus de l'agriculture biologique. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que représentent ces avantages organoleptiques ?
Ce que nous disons dans le livre, c'est que les produits issus de l'agriculture biologique présentent souvent des avantages organoleptiques, c'est-à-dire meilleur goût, meilleure saveur, mais ceci n'est pas dû au système de culture, mais à la chaîne d'approvisionnement. En effet, le facteur essentiel sur les qualités organoleptiques des produits est la chaîne d'approvisionnement et la conservation. Et en général, en agriculture biologique, et ça c'est un facteur tout à fait positif, la chaîne d'approvisionnement, la chaîne globale du produit est plus courte qu'en agriculture conventionnelle. Je dis en général, et en particulier, c'est ce qui se passe dans le cadre des AMAP, les mouvements pour l'agriculture de proximité. Ceci est bien évidemment pas vrai du tout pour les produits bio qui sont importés. Et on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de produits, en particulier sur les fruits et légumes, 40% de la consommation des produits biologiques en France représente des produits d'importation. Et donc là, on ne trouve plus aucun effet sur les qualités organoleptiques.
Donc dans ce cas-là, consommer bio n'a plus aucun intérêt.
Le fait de consommer bio n'a pas d'intérêt sur le plan organoleptique. Par contre, le fait d'avoir affaire à des chaînes courtes, de permettre de récolter à maturité et de ne pas avoir de longues périodes de conservation, ceci présente un intérêt évident.
Donc la conservation, très importante, vous l'avez rappelé. Il y a un débat aussi en ce moment, le débat sur les OGM. Je crois que c'est un sujet que vous n'abordez pas énormément dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot aujourd'hui sur la position de l'Académie d'agriculture sur ce débat OGM et agriculture biologique ?
Nous abordons peu cette question dans le livre, nous l'abordons un petit peu. Et en particulier, nous disons que l'un des avantages de certains OGM, parce qu'il ne faut jamais généraliser quand on parle d'OGM, il faut parler au cas par cas, certains OGM ont l'avantage de présenter des résistances à des insectes en particulier. Et que donc, par ce fait même, ils évitent l'emploi de pesticides, qu'ils soient de synthèse ou non, et qu'ils pourraient présenter un intérêt en agriculture biologique. La difficulté ou le problème, c'est que les règles de l'agriculture biologique exclut a priori les OGM. Vous me demandez quelle est la position de l'Académie d'agriculture sur les OGM. L'Académie d'agriculture n'a pas de position officielle publiée sur les OGM. On a eu des débats, mais pour le moment, il n'y a pas de position officielle de l'Académie d'agriculture. Ce que nous disons, c'est que les OGM doivent être étudiés au cas par cas et que lorsqu'ils sont autorisés par les différentes autorités sanitaires nationales et internationales, il n'y a aucune raison de penser que ces produits peuvent être, je dirais, dangereux, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement. Il y a d'ailleurs aujourd'hui dans certains pays du monde, et en particulier en Australie, j'ai lu récemment un article disant qu'un certain nombre d'agricultures biologiques se posait cette question et se disait, avec des OGM adaptés, ce serait peut-être une très bonne solution pour l'agriculture bio.
Un dernier point avant de terminer ici cette émission. Il faut aussi souligner, comme vous le dites dans votre livre, et c'est votre conclusion, que l'agriculture biologique peut être aussi un merveilleux laboratoire de recherche pour l'agronomie.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure au cours de la discussion. L'agriculture biologique ayant pour objectif de limiter au maximum l'utilisation des engrais et des pesticides grâce à un système de culture beaucoup plus résilient avec des rotations, une recherche dans ce domaine serait utile à l'agriculture en général. Et ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que l'agriculture biologique présente des avantages au niveau de l'environnement, surtout au niveau de la parcelle. C'est beaucoup moins vrai au niveau du territoire ou du niveau global, mais que aujourd'hui, sur le plan de l'alimentation, rien n'a montré qu'elle présentait des avantages pour le consommateur.
Eh bien, merci à vous, Bernard Le Buanec. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de l'Académie des technologies et membre de l'Académie d'agriculture de France, et que vous avez été donc coordinateur du groupe de travail de l'Académie d'agriculture qui a édité cet ouvrage « Le tout bio est-il possible ?» aux éditions Quae. Un livre très riche et très précis dans ses explications et surtout très richement illustré. Combien d'années vous avez passé, par exemple, à travailler sur cet ouvrage ?
C'était un travail de longue haleine. Nous avions d'abord fait un rapport au niveau de l'Académie d'agriculture et au vu du rapport, on nous a suggéré d'écrire un livre. Écrire un livre avec 12 personnes ayant des sensibilités différentes et aboutir à un consensus, ça n'est pas facile. Et nous y avons passé 2 ans.
Eh bien, 2 ans réunis en 90 questions et surtout 90 réponses claires et précises qui abordent les atouts et toutes les problématiques de l'agriculture biologique. Je vous remercie d'être venu nous voir ici à Canal Académie. À bientôt.
Merci à vous.